Fred Hidalgo, vous venez d'animer une conférence autour de la fabuleuse histoire du Grand Jacques aux Marquises lors de la 13e édition du festival Fête de la chanson à Arras. Bah, peut-être quelques mots d'abord sur votre parcours. Vous êtes créateur et directeur du magazine Paroles et Musique et maintenant tout récemment qui s'est transformé en Chorus, c'est bien ça? Quelques mots là-dessus?
Oui, en fait, Chorus n'existe plus depuis 2009, mais entre 1980 et 2009, donc on a animé le même journal qui a changé un peu de formule à un moment donné, et donc de nom, mais c'était la même démarche, la même conception de la chanson, le partage, la découverte, on a essayé de donner à découvrir énormément d'artistes, et donc ça a été 30 ans de journalisme chanson. Et puis, en parallèle, nous avons édité quelques dizaines de biographies d'artistes aussi en livre, tout ça dans le même temps. Et puis, à titre personnel, parce que c'était un artiste que j'appréciais particulièrement, Jacques Brel, plus pour sa philosophie, hein, ce que j'appelle son principe d'imprudence. C'était quelqu'un qui se mettait en danger tout le temps, au lieu de capitaliser sur ce qu'il avait fait. Il essayait toujours de passer d'un rêve à l'autre. Et donc, bah, je suis allé aux Marquises, j'ai découvert ce qui a été sa vie d'après le chanteur, d'après l'acteur. C'est une véritable vie d'aventurier, en même temps au service des gens, là-bas sur place, avec son avion. J'en ai écrit un livre tellement j'étais moi-même stupéfait quoi, d'apprendre comment sa vie avait été là-bas vraiment vouée au service des gens. Et puis, on m'a demandé aussi, des gens ayant trouvé que c'était une vie absolument passionnante et surtout méconnue, bah, d'en faire une conférence pour que ce soit un peu plus vivant.
Alors, peut-être pour parler de votre voyage sur les pas de Brel aux îles Marquises, est-ce que vous pouvez me parler peut-être un peu plus concrètement comment s'est fait le projet et aussi, donc, cette conférence, comme vous l'avez animée, il y a eu énormément d'anecdotes. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous ont plus touché ou plus surprise que d'autres aussi, venant de la vie de Brel?
Oui, il y en a eu beaucoup, évidemment, mais en particulier cette anecdote d'une jeune marquisienne de 17 ans qui était une collégienne de l'île où vivait Jacques Brel, à Ivaoa, et qui était aveugle, qui était rentrée de Paris où elle était soignée. Et elle avait appris à l'hôpital à Paris que Jacques Brel, en entendant la radio, était un chanteur célèbre, parce qu'à Ivaoa, où il a vécu les trois dernières années de sa vie, les gens ne le connaissaient pas du tout, ni comme chanteur, ni comme acteur, parce qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de cinéma, rien du tout. Et donc, Jacques Brel l'a reçu, et il venait la veille de terminer d'écrire sa chanson « Les Marquises ». Il a été ému par cette requête, il a pris sa guitare et il lui a chanté à elle, donc pour la première fois de sa vie, « Les Marquises » en direct, à l'endroit même où la chanson avait été écrite. Donc c'est une anecdote quand même particulièrement émouvante, mais il y en a beaucoup d'autres sur place.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Brel est resté simplement 3 ans de sa vie aux Marquises, mais c'est vraiment cet endroit-là où il a pu vraiment finalement faire un condensé aussi de sa vie, puisque vous l'avez dit, il a été un petit peu marin, il a passé une grande partie aussi de son temps à faire de l'aviation aussi, en rendant service, on va dire, à la population locale aussi. Et bien sûr, il a écrit l'un de ses derniers albums qui, vous l'avez dit, est l'un de ses chefs-d'œuvre, c'est ça ?
Oui, ben, pour moi, c'est l'un des albums majeurs de l'histoire de la chanson francophone. Hein. Quand on reprend les chansons aujourd'hui de cet album, « Vieillir »,« Voir un ami pleurer »,« Jaurès », Les Marquises, évidemment, Orly, il n'y a vraiment que des chansons superbes. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il était tout seul cette fois-ci pour les écrire. Il n'avait personne à les faire entendre, parce qu'un chanteur, quand il écrit des chansons, et surtout à l'époque, ça se faisait en permanence. Il écrivait en tournée, puis le soir, il essayait avec ses musiciens, etc. Donc il y avait une écoute extérieure. Là-bas, il était vraiment tout seul. Il n'avait absolument personne du métier pour lui donner le moindre avis. Et quand on sait qu'il a écrit ça dans son salon, qu'on voit sa guitare, l'orgue électrique qu'il avait acheté à Tahiti, un petit salon de rien du tout, qu'il s'enregistrait lui-même avec un petit magnétophone à cassette. C'est vrai que c'est assez émouvant et en même temps bluffant, parce que son dernier album a pris une telle dimension aujourd'hui, il est devenu mythique. et d'aller sur place et de voir dans quelles conditions ça s'est fait, c'est vrai que c'est assez formidable.
Il y a aussi beaucoup de photos qui ont été montrées pendant cette conférence, des photos inédites du quotidien de Jacques Brel. Comment vous avez récupéré toutes ces photos de vie finalement de Jacques Brel ?
Il y a des photos que l'on avait déjà en archive, qui sont peu connues, mais qui existaient, qui ont été mises dans des agences, etc. Et puis, bon, il y a des photos qui ont été prêtées par sa compagne, hein, qui l'accompagnait aux marquises et pendant tout le voyage qui a précédé. Donc, quand il est parti en bateau sur un voilier qui s'appelait la Skoy, c'est en juillet 1974, et ils sont arrivés aux marquises le 19 novembre 1975. Donc, ça a été un long trajet via l'Atlantique et le Pacifique. Donc, Madly a pris pas mal de photos. Donc il y a certaines de celles-là. Il y a aussi les gens qui vivaient sur place, ses amis, la directrice d'un collège de jeunes filles, son ami pilote, parce qu'il a revalidé sa licence de pilote sur place. Ça faisait un certain temps qu'il ne volait plus, et comme il avait été opéré, qu'on lui avait retiré un poumon, il fallait à nouveau repasser sa licence de pilote. Donc Michel Gauthier a pris pas mal de photos, c'est son nom. Charles Marouani, son impresario aussi, qui est allé lui rendre visite, qui a pris des photos. Voilà. Donc, ce sont des gens qu'on a rencontrés dans le cadre du livre que j'ai écrit ensuite, hein, qui n'était absolument pas prémédité. C'est uniquement en découvrant sa vie là-bas et en sympathisant avec les amis que Jacques Brel avait sur place que j'ai eu envie d'écrire ce livre, quoi, pour donner à partager au maximum. Et donc, on nous a confié des photos qui permettent de rendre cette conférence tout à fait vivante.
Vous avez fait une conférence à la 13e édition de Fête de la Chanson à Arras. Est-ce que vous connaissiez déjà ce festival-là de chansons qui met à l'honneur tout type de chansons, et puis l'importance aussi de ce genre de festival aussi qui, pour le coup, met aussi en avant cette année les Belges. On a oublié de le dire, Jacques Brel était belge.
Oui, oui, oui. Alors, je connaissais bien Fête de la Chanson et l'association Didouda bien avant encore, puisque dans Parole et Musique et Chorus, donc les deux journaux en question, on a parlé de Didouda à plusieurs reprises, on a publié des comptes rendus du festival qui en était à ses débuts. C'est-à-dire, on a couvert les trois ou quatre premières éditions, puisque Chorus s'est arrêté en 2009. Donc, on connaissait bien l'association et on partageait totalement sa vocation, comme je vous le disais, une vocation qui rejoignait celle de nos journaux, qui était celle de la découverte et du partage, d'essayer d'informer, entre guillemets, le grand public du fait qu'il existe des artistes de grands, grands talents et qui n'ont pas accès aux grands médias du tout. Oui, oui, c'est un festival que je connaissais bien et je suis très content de voir qu'il se porte bien et qu'il en est déjà à sa 13e édition.
Peut-être, grand amoureux de la chanson que vous êtes, est-ce que vous voyez peut-être des artistes de chansons, peut-être programmés ici ou pas, qui sortent du lot aujourd'hui ?
Oh oui, oui, il y en a toujours, hein. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a, parce que c'est quelque chose de récurrent dans la grande presse ou dans les grands médias, des campagnes du genre la chanson est morte, la chanson française n'existe plus, etc. Bon, ça c'est complètement débile, il n'y a pas d'autre mot, parce que la chanson c'est une chaîne sans fin, il y a toujours eu des créateurs, il y en aura toujours. La seule chose, c'est les conditions d'exercice du métier qui changent, qui fluctuent. Bon, il y a eu la crise du disque, mais il y a aussi les médias. Enfin, quand je dis les médias, c'est les télévisions principalement, qui impriment de plus en plus leur marque sur, enfin, auprès du grand public, en tout cas, sur ce qu'est, d'après eux, la chanson, et ce qui est, c'est l'iceberg, en fait, la partie émergée de l'iceberg. Et il y a 90% en dessous que le grand public ne connaît pas, et quand, par hasard, il a l'occasion de tomber dessus, il se dit, mais comment se fait-il que j'ai jamais entendu parler d'un tel ou d'un tel ? Donc, je pourrais vous donner des noms, hein, mais même des artistes qui sont apparus déjà il y a 10-12 ans et qui n'arrivent pas à atteindre vraiment la notoriété du grand public, comme Amélie Les Crayons, Donoré, Émilie Loiseau, bon, qui ont même une petite notoriété, mais vous allez faire un sondage dans le grand public, dans la rue, et puis on vous dira, non, j'ai jamais entendu parler de ces gens-là. Les Ogres de Barbac, parce qu'il y a des groupes aussi qui... Enfin, il y a plein d'artistes vraiment talentueux qui vivent de leur métier, de leur art, heureusement, mais qui n'accéderont peut-être jamais, contrairement aux Brel, Brassens, Ferré et la génération d'après, les Cabrel, Goldman, Souchon et compagnie, à cette notoriété nationale. Il y a un moment donné, c'est vraiment dommage parce que les gens, on se ressemble, on se rassemble grâce à des chansons, quoi. On se reconnaît dans des chansons et ça permet un rassemblement. Mais à partir du moment où il n'y a plus moyen de faire passer des chansons au niveau de l'air du temps, dans la rue, de les faire descendre dans la rue, comme disait Traîné, on arrive à deux niveaux, quoi. C'est-à-dire les gens qui connaissent, parce qu'ils fréquentent des festivals comme Fête de la Chanson, et puis qui se régalent en allant voir les artistes qu'ils connaissent ou qu'ils découvrent. Et puis les autres qui restent passivement devant leur poste de télé et qui passent à côté de véritables bonheurs.
Vous avez donc sorti un livre de ce voyage à la rencontre des dernières années de Jacques Brel aux Marquises. Ben, où est-ce qu'on peut peut-être retrouver ce livre et puis le livre aussi que vous avez écrit qui a été sorti l'année dernière ?
Oui, alors le livre s'appelle Jacques Brel, l'aventure commence à l'aurore, puisque c'est un livre qui complète sa vie, hein, finalement. Ça commence le jour où il quitte le port d'Anvers, hein, pour faire le tour du monde qu'il avait prévu de faire à la voile, et puis qui se termine, malheureusement, par ses obsèques à Ivaoa, puisqu'il a été inhumé là-bas. Ce livre, non, il existe en librairie. Alors, il n'est plus disponible en devanture, puisqu'il est sorti il y a 3 ans, en 2013, mais il est toujours disponible. On peut se le procurer en version grand format ou en livre de poche aussi, maintenant. La mémoire qui chante, alors ça, c'est un livre qui a été coédité, en quelque sorte, avec une souscription aussi auprès d'anciens lecteurs de Chorus. C'est un peu notre parcours personnel, à ma femme et moi, puisque nous avons lancé les journaux et animé ces journaux-là ensemble, mais à travers les artistes, la vie des artistes que l'on a côtoyés, fréquentés de près. Donc La mémoire qui chante, c'est un gros livre de plus de 600 pages où il y a des choses inédites sur Léo Ferré, Georges Moustaki, Alain Lepresse, Claude Nougaro, Guy Béard et plein d'artistes moins connus, Jacques de Broncard, qui était d'ailleurs un régional de l'étape, puisqu'il était du Nord.